Bonne soirée à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour cette nouvelle édition de La vie en BD, La vie en bande dessinée, bien entendu. Votre magazine entièrement consacré au 9e art ainsi qu'à l'illustration et à l'univers des fanzines. Et cette semaine, on va porter un regard bien attentif sur deux récentes sorties BD des auteurs québécoises, notamment deux d'entre elles qui ont publié ici et au-delà, puisque c'est dans la collection Shampoing, collection dirigée par Louis Trondheim, nul autre que M. Trondheim. La bande dessinée s'appelle L'Hosticha. C'est un feuilleton, pourrait-on dire, un téléroman dessiné, si on pousse un peu plus loin, donc qui nous est offert par Iris et Sviane. On aura Iris en entrevue tout à l'heure. Également, quatrième tome d'une série qui s'appelle Mademoiselle. On tombe dans l'univers des préoccupations féminines. Ici, c'est une bande dessinée entièrement consacrée à la grossesse, réalisée par Eva Rollin, c'est chez Glénat Québec. L'auteur sera avec nous un peu plus tard ce soir. Et sinon, on aura l'occasion également de parler BD avec Anne-Marie Olivier, quelques commentaires autour de récentes parutions et également, on va porter un regard sur l'univers du fanzine en compagnie d'Olivier Bérère-Vidal. Ça, ce sera en fin d'émission. Donc, notre collaborateur qui s'intéresse à cet univers, à l'illustration également. Alors, on verra qu'est-ce que les nichés pour nous. En fait, ce sera un petit survol de quelques fanzines qu'on retrouve ici dans la grande région de Québec. Et avant d'aller vers notre premier bloc musical, je souligne au passage que les prix Lux ont été dévoilés tout récemment lors d'un 5 à 7 au Centre des sciences de Montréal. Et notamment, il y a un livre de La Pastèque qui s'est mérité un prix dans la catégorie bande dessinée. Il s'agit de Carton. C'est un ouvrage collectif érotique qui avait été publié un peu plus tôt cette année. Un livre qui regroupe les travaux de John Mars, de Benjamin Adam, de Nicolas Mallard, de Pascal Blanchet, de Pascal Girard, Edouard H. Bound et Mélanie Bayarger. Un livre qui avait été, si ma mémoire est bonne, assez bien reçu d'ailleurs. Alors il a obtenu le prix BD dans ce gala des prix Luxe un peu plus tôt cette semaine. Alors cela étant dit, on se lance en musique. Notre sélection musicale pour cette semaine, on a été chercher quelque chose d'assez évident pour ce vendredi. Il s'agit de DJ Shadow, un artiste qui s'intéresse à l'univers électronique que j'apprécie tout particulièrement et donc qui a offert cette semaine ou la semaine d'avant, là, donc tout, ça fait vraiment pas long, là. Alors il a offert un album qui s'appelle The Less You Know, The Better. On va en écouter quelques extraits au fil de l'émission. Et tiens, on en écoute un. Tout de suite, au retour, Anne-Marie Olivier. Détour derrière les lignes ennemies. Le petit extrait qu'on vient d'entendre, c'est une pièce donc qui s'appelle Enemy Lines. DJ Shadow toujours ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Et c'est l'heure maintenant de porter un petit regard sur les parutions récentes, donc commentaires BD. Et pour cette semaine, on a le plaisir d'avoir avec nous Anne-Marie Olivier qui est libraire chez Phylactère. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, merci.
Alors, Anne-Marie, cette semaine, en fait, tu vas amener notre attention sur deux albums. Alors, tu vas nous parler d'un livre qui s'appelle « Beauté », tome 1, et également de « Blackbird ». On va commencer par « Beauté ».
D'accord. Alors, Beauté, c'est le nom de la série. Désir exaucé, donc premier tome qui est paru chez Dupuis, donc en juin 2011. Auteur Kieras Coet, qui sont un duo d'auteurs, en fait, formé de... C'est une fille qui s'appelle Marie Pompuis et Sébastien Cosset. Mm-hmm. Donc, moi, pourquoi j'ai beaucoup aimé cet album-là, c'est que ces auteurs-là remettent le conte au goût du jour, mais en gardant toujours un certain esprit malsain. Puis, ils engendrent le malaise de manière extrêmement efficace. Donc, ça fait, c'est très rafraîchissant au niveau du conte, en fait, en bande dessinée.
Et qu'est-ce que tu entends par un certain esprit malsain?
Ben, c'est que on n'est pas dans un univers qui est tout beau, tout doux, où les princesses passent de bons moments et où ils rencontrent le prince et vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Donc, on est assez loin de ça. On garde toujours une anti-morale, c'est très dérangeant comme lecture et c'est très efficace.
Et il faut dire, en fait, la série Anne-Marie s'appelle Beauté, donc j'imagine qu'il y a des questions autour de cette thématique-là dans le scénario, dans l'histoire qui est proposée.
Tout à fait. Donc, en fait, on parle d'une jeune fille qui est laide, qui s'appelle Moru, et qui, un soir, délivre une mauvaise fée d'un sortilège. Et celle-ci lui exauce son rêve le plus cher, qui est de devenir belle. Donc, on pourrait penser à la suite de ça que sa vie s'arrange, mais c'est pas le cas du tout. Cette beauté-là qu'elle va recevoir ne sera pas une beauté physique, mais plutôt une perception de la beauté. C'est-à-dire que les gens vont la voir belle, mais elle se voit toujours laide. Et cette perception-là va engendrer le malheur et la destruction de son entourage personnel, mais du royaume aussi où elle habite. Mmh. Donc, c'est un rapport très malsain à la beauté, et ça prouve que c'est pas parce qu'on est belle que tout s'arrange.
Et côté dessin, pour bien transcrire cet univers-là, est-ce qu'on y va avec quelque chose de très réaliste ou au contraire, on essaie de trancher avec les thématiques du livre?
Bien, on est dans un esprit de conte, donc le malaise est vraiment rendu par... on retrouve un dessin qui est somme toute léger dans le pur esprit du conte, une certaine naïveté aussi dans les illustrations, mais qui contraste avec un scénario qui est cruel puis plutôt malsain. Donc, quand on commence à lire la série, on voit un univers qui est a priori très coloré, très agréable, et plus on avance dans la lecture, plus on se rend compte en fait que non, on n'est pas du tout dans un univers réjouissant. Mm-hmm. Et c'est là que le malaise se fait connaître.
Ça augmente l'effet, ça augmente l'impact, voilà. Là, vraiment.
C'est ça.
Alors ça, c'est donc une première suggestion. Donc, Beauté, tome 1, Désir exaucé, c'est de Kieras Coet. On passe, Anne-Marie Olivier, au deuxième volume de ce commentaire. En fait, c'est Blackbird, donc qui est arrivé en avril 2011 chez l'employé du mois.
Exactement. Donc, Blackbird, Pierre Morel, c'est un auteur français. Et Blackbird, c'était une BD qui a démarré sur son blog en 2008. C'était lui qui le faisait, donc l'auto-édition en feuillet. Et l'employé du mois a décidé de réunir ces 6 feuillets-là dans un volume complet. Et Blackbird raconte un peu le 1984 du fanzine, où on passe une loi qui interdit l'autopublication. C'est une BD qui est très intelligente et qui dénonce beaucoup l'autoritarisme et qui décrit les conséquences que l'absurdité de cette loi-là peut engendrer.
Est-ce qu'on a quelques exemples de conséquences pour...
Ben, c'est-à-dire que Blackbird étant un fanzine, c'est le titre du volume. Alors, c'est un collectif. Donc, si un auteur parmi ces gens-là est publié par une maison d'édition, mais les autres ne sont pas admis dans cette publication-là, donc ils deviennent tous des êtres subversifs et ils deviennent l'ennemi à abattre. Et on essaie d'interdire l'autopublication et de reléguer le monde du livre et le monde de l'édition dans une culture de masse et de série. Et c'est absolument dérangeant. Et ces gens-là qui essaient de se faire connaître, et s'ils ne sont pas publiés, bien, les librairies n'ont pas le droit de publier ces gens-là. Et ils deviennent des contrevenants à la loi dès qu'ils acceptent d'avoir ces publications-là dans leurs étagères. Donc, un récit très politique et très... qui là parle de du monde de l'édition, mais qui peut s'appliquer à toutes sortes de domaines également. Là.
Non, effectivement, en fait, dès qu'on rentre dans ces thématiques-là, c'est en même temps toujours fascinant de voir à quel point on peut rattacher aussi à certaines orientations, que ce soit liées au capitalisme ou à la sphère politique, que ce soit ici ou ailleurs aussi. Ça reste des questionnements qui sont quand même assez actuels, malheureusement d'ailleurs.
Ouais. Tout à fait, c'est un questionnement de société. Là, on aborde un sujet, le sujet de l'édition, mais ça peut s'appliquer vraiment à plein de domaines et plein de au niveau social et tout. Donc, c'est sûr que ce contexte-là s'applique surtout à la France parce que Pierre Morel est un auteur français, mais c'est international et c'est extrêmement d'actualité et ça fait poser beaucoup de questions.
Et côté graphisme, en terminant, Marie, est-ce que ça a l'air de quoi? C'est du noir et blanc,
C'est du noir et blanc, une ligne très fine, qui est très bien rythmée, qui fait vraiment honneur aux propos aussi, parce qu'on n'est pas dans un univers qui est magique. Donc, on est dans un univers d'imprimerie, de répression, et ça sert très bien le propos.
Alors, on dit deux thumbs up pour Beauté, tome 1, pour Blackbird également?
Tout à fait.
Tout à fait.
Oui.
Alors, je le rappelle, donc, Beauté, tome 1, ça c'est chez Dupuis. Et
voilà.
Pour Blackbird, c'est disponible chez l'employé du mois. Anne-Marie Olivier, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne fin de journée.
Au revoir.
Alors voilà Anne-Marie Olivier, qui est libraire chez Philacteur et qui joindra l'occasion à nous pour les commentaires BD avec notre équipe, toujours de plus en plus grande d'ailleurs. On est très, très contents de cela. Et on retourne en musique et on va aller faire un tour avec DJ Shadow avec une pièce qui parle de rédemption, tu sais, mais qui parle pas puisque c'est instrumental. On écoute ça et au retour, le Stitcha avec Iris. CKRL 89.1, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 et je vous invite à aller visiter le blog de l'émission La Vie en BD, c'est lavieenbd.wordpress.com. Les émissions des dernières semaines s'y trouvent et on essaie également de l'animer le mieux qu'on peut du moins, avec notamment quelques informations sur le milieu BD de Québec. Et on va s'intéresser maintenant à une toute récente parution. En fait, j'avais presque envie de dire que le livre est encore chaud, que tellement c'est tout récent cette sortie. Ça s'appelle Le Stitcha. Un nom qui allumera peut-être quelques-uns des auditeurs, auditrices, puisqu'il s'agit également d'un blog BD qui a été passablement populaire, et je pèse mes mots très largement, au fil des dernières années. Et donc, le blog a fait son chemin vers le livre et le tome 1, donc, qui est arrivé en librairie. Pour nous en parler, l'une des deux auteurs, Iris, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'abord, en fait, je pense que ça vaut la peine justement de mettre la table autour du contexte de réalisation de la Stitcha que tu as réalisé avec Sviane. C'est d'abord un blog qui a été réalisé. Et qu'est-ce qui avait mené à la naissance de ce blog-là?
En fait, d'abord, je pense que et Sylviane et moi, si je ne me trompe pas pour le cas de Sylviane ici, on avait toutes les deux envie de faire du feuilleton, mais on ne savait pas trop sous quelle forme. Moi, j'avais déjà pensé faire des comic books comme à l'américaine, mais il n'y avait pas vraiment d'éditeur à Montréal qui était intéressé à faire ça. Puis il y avait aussi le blog dans ce temps-là qui s'appelait Chicou Chicou, qui était un blog français qui était fait par Boulet, Aude Picot, Lisa Mandel et puis Domitier et Collardé. Puis qui était un peu le même principe que le blog qu'on a fait, c'est-à-dire il prenait des personnages qui n'étaient pas eux-mêmes. Dans le fond, Boulet était une fille, puis il se représentait comme ça. Puis c'était un blog feuilleton aussi. Mm-hmm. Puis Sylviane a fait une résidence à Angoulême à la Maison des auteurs en 2009. Puis j'étais allée lui rendre visite. Puis autour d'une bière comme ça, on s'est dit, tu sais, on devrait faire un blog ensemble. Puis on pensait pas que ça prendrait cette ampleur-là. Aujourd'hui, on est rendu à 500 et plus pages sur le blog.
Oui, c'est plaisant aussi de voir justement qu'il se décline maintenant en album, en petit volume.
On s'attendait pas à ça non plus. C'était pas destiné à être publié au début.
Non, on est bien content. Moi, je sais pas. On n'a pas la même relation avec le rendu, dans le fond, que ce soit à l'écran, que ce soit en album. J'ai l'impression que c'est comme deux relations différentes.
Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui m'ont dit, quand ils ont su que ça allait être publié, ils m'ont dit, je l'ai pas trop lu sur Internet, j'aime pas trop lire à l'écran, mais maintenant que je sais que ça va être publié, j'ai vraiment hâte de lire en livre. Puis moi, on est ravis toutes les deux que ça sorte en livre.
Et l'inspiration, on parle de feuilleton, en fait, pour situer encore un peu, on est carrément dans le quotidien donc de vos deux personnages, Jean-Sébastien et Jasmin, et un quotidien qui a ses joies, qui a ses peines, qui a ses petits drames, qui a ses grandes joies. Qu'est-ce qui vous attirait dans ce type de sujet-là aussi, donc de raconter comme ça un certain quotidien?
Ben, je peux plus te parler pour moi parce que Sylviane, je sais pas, mais moi, en fait, c'est les thèmes que j'utilise tout le temps dans mes bandes dessinées. Les deux premières bandes dessinées que j'ai publiées, Justine, puis dans mes relings, c'était aussi des bandes dessinées qui parlaient du quotidien, soit de l'autobiographie ou de la fiction, mais qui étaient quand même de l'ordre du quotidien. Puis, pour ma part, encore une fois, je parle de ce que je connais. J'ai beaucoup de mal à me projeter, par exemple, au 18e siècle en Afrique. Là. Je sais qu'il y en a qui le font, mais qui font beaucoup de documentation aussi. Moi, ça m'intéresse plutôt de parler de ce que je connais, puis du quotidien, de ce qui me ressemble, parce que Sylviane et moi, on a le même âge à peu près, puis nos personnages aussi. Donc, on habite tous les deux à Montréal, puis c'est ça qu'on a eu envie de raconter ensemble.
Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon défi aussi à aller chercher quelque chose qui, pour nous, Québécois, Québécoises, ça nous ressemble passablement. Donc, c'est par exemple dans le dialogue, pour que ça passe à l'écrit, que ça sonne vrai, entre guillemets, pour qu'on accroche dans ce quotidien-là. Et j'ai l'impression que c'est un défi que vous avez réussi à bien surmonter là, dans le Stitch-up.
Ah, ben tant mieux si je trouve que ça a été bien surmonté. Ben moi, encore une fois, je vais répondre la même chose que je viens de répondre. J'ai toujours écrit en québécois comme ça. Puis je pense que Sylviane, à peu d'exceptions près, elle écrit aussi beaucoup en québécois. Puis je pense que j'aurais du mal à faire autrement que ça. Là. Justement, je me posais la question pour un projet, le prochain projet que je veux faire, qui va se passer, qui sera un petit peu plus... qui sera pas vraiment dans l'ordre du quotidien, justement. Puis je me demandais, est-ce que je vais être capable d'écrire en français correct, tu sais, sans que les personnages parlent en québécois, parce que ça nous vient tellement naturellement comme ça. Je pense que ça aurait été un peu bizarre aussi que Jean-Sébastien et Jasmin, les personnages de Stitcha, parlent pas comme des Québécois, parce que bon, c'est tellement montréalais, ce livre-là. Je veux dire, ça se passe à Montréal, c'est flagrant, on voit des lieux... de Montréal, on le sait qu'ils sont là.
Oui, ben je veux dire, puis l'accent devient nécessaire, et même en fait, j'imagine côté France, ça doit être un des éléments charmants peut-être aussi du récit. En fait, du moins, c'est des commentaires sur lesquels je suis tombé côté Europe. Il y a un côté séduisant dans cet accent-là qu'on retrouve dans le texte.
Ben, en tout cas, je ne sais pas s'ils aiment ça, mais ça les fait parler, parce que toutes les critiques qu'on a eues sur Internet, ils parlent évidemment de l'accent. Ils disent, ah bon, le langage un peu... Je pense même qu'il y a quelqu'un qui a dit le langage vulgaire, si je ne me trompe pas. En tout cas, on trouvait ça bien drôle. Mais l'éditeur, c'est Louis Trondheim qui dirige la collection Shampoing, dans laquelle le site est publié. Puis lui, ça ne l'a pas du tout choqué. Il nous a dit, c'est beau, on publie ça tel quel. Puis je pense que... je ne suis pas certaine qu'on l'aurait publié avec la contrainte de changer le langage, mon petit Sylviane.
Oui, mais surtout en plus que le produit existait déjà, que les gens... je veux dire, parce que le blog, c'était quoi? C'était 800 à 1000 personnes qui allaient visiter chaque note. Là, c'était pas un blog anonyme du tout.
Oui, c'est ça. Puis, comme je disais, au début, c'était pas, on pensait pas le publier en livre non plus. Donc, on voulait pas le publier en livre à n'importe quelle condition. C'était pas essentiel à nos yeux. On avait déjà du plaisir à le faire sur le blog. Puis, puis on aurait trouvé ça vraiment dommage de changer de langage parce que ça aurait vraiment enlevé beaucoup de personnalité, je pense, au livre.
Et côté personnalité, côté travail, Iris, ce qu'il faut dire aussi, c'est que toi et Sylviane, vous n'avez pas fait une division scénario-dessin, c'était vraiment on s'échange, c'est une création en relais, dans le fond.
Ben, au début, on s'était mis une espèce de règle, en fait, c'est moi qui avais mis cette règle-là, qu'on ne pouvait pas dessiner une scène qui mettait en scène justement le personnage de l'autre sans que notre personnage soit là. Comme par exemple, je ne pouvais pas raconter une histoire qui mettait en scène Jean-Sébastien, qui est le personnage de Sylviane, sans que mon personnage soit là. Puis je ne pouvais pas lui inventer une vie. On avait comme chacun nos personnages, puis c'est nous qui leur inventé une vie, puis un passé, tout ça. Puis plus le blog avançait, ben plus c'était difficile de tenir compte de cette règle-là parce que, bon, fallait se diriger vers... On avait décidé d'une fin, puisqu'il fallait respecter un nombre de pages à cause des contraintes éditoriales. Puis, à ce moment-là, on a commencé un petit peu piler là-dessus, puis un peu s'en foutre. Puis, au début aussi, c'était beaucoup plus improvisé, puis on se relançait beaucoup. On se tendait des pièges. Des fois, moi, c'est Diane, puis je commençais une séquence, puis après, ça finissait sur une espèce de super gros hook... qu'est-ce qui va se passer? Puis Sylviane, il fallait qu'elle trouve une solution à ça. Mais on faisait de moins en moins ça à la fin. C'était de plus en plus planifié.
Non, exactement, parce qu'à un moment donné, il fallait que ça finisse. Donc, s'orienter vers la finale, dans le fond,
exactement,
vers la conclusion.
À la fin, c'était un vrai casse-tête. On avait encore 1000 idées qui nous venaient en tête. Puis on se disait, bon, comment on fait quitter ça dans le nombre de pages qui nous restent? Puis je pense que même maintenant, des fois, quand on se voit, on parle de d'autres idées qu'on a. Mais là, évidemment, le blog est terminé, puis... il n'y aura pas de suite, malheureusement, mais on a encore des idées. Ça aurait pu aller à l'infini, je pense, cette histoire-là.
Et ce qui est intéressant aussi dans le travail à relais, c'est, je veux dire, au niveau graphique, vous n'avez pas le même dessin, mais en même temps, il y a une cohérence côté graphique qui est présente dans le volume. Il n'y a rien qui agace, même si, justement, vous ne tentiez pas, en fait, du moins, j'ai pas l'impression que vous tentiez de vous imiter non plus entièrement ou de changer votre style non plus. Là.
Non, mais c'était quand même... On avait décidé de certains aspects graphiques qui allaient être une constante pour justement qu'il n'y ait pas trop de choc entre les scènes. Par exemple, moi, dans mes livres précédents, je dessinais mes personnages avec des bras spaghettis, des bras qui n'ont pas d'articulation. Et puis, on s'était dit, bon, ben pour ce livre-là, elle et moi, on va faire des bras articulés avec un coude. Même chose pour les jambes. Puis, les yeux des personnages aussi, moi, j'avais tendance à faire des petits points comme Tintin, là, des petits yeux en pointe. Puis Sylviane aussi, des fois, faisait ça. Puis on s'était dit, bon, on va faire des yeux différents pour un peu faire une espèce de style Sylviane-Iris.
Oui. Puis en même temps, pour pouvoir s'amuser correctement, se relancer la balle adéquatement, il faut avoir des règles. Sinon, ça peut s'en aller trop n'importe où.
Oui, c'est ça, exactement.
Et est-ce que c'est un mode de création sur lequel on en reviendrait pour un autre projet?
Définitivement. Oui. On a adoré travailler ensemble. D'ailleurs, on savait pas trop parce qu'on avait juste fait un petit fanzine ensemble comme ça avant, puis on savait pas dans quoi on s'embarquait. Puis finalement, je pense qu'on a été agréablement surprises l'une et l'autre parce que j'ai jamais aussi bien travaillé sur un projet, j'ai jamais été aussi efficace. À chaque fois qu'on n'avait pas d'idée, on s'appelait, on se relançait, c'était vraiment génial, puis on va définitivement travailler encore ensemble. C'est sûr que le studio est terminé, mais on a plein d'autres idées pour d'autres projets, d'autres feuilletons, d'autres quelque chose d'autre.
Et le passage, en fait, du blog vers le livre, est-ce qu'il a fallu réordonner un peu des épisodes, essayer de coordonner un peu les éléments, justement, pour que chaque livre puisse avoir son hook, son arc, etc.? Ou est-ce qu'on a juste transposé le blog dans l'ordre que c'était présenté parce que, de toute façon, la structure s'y prêtait?
Non, justement, c'est ça. La seule chose qui a été changée, ou à peu près la seule chose, c'est l'ordre des scènes. Parce que, justement, sur le blog... des fois, c'était cohérent d'avoir bon une scène qui est entrecoupée d'une autre scène parce qu'on alternait Sylviane et moi d'une semaine à l'autre. Donc, quand on lisait d'une semaine à l'autre, ça allait parce que bon, on se rappelait, OK, c'était l'affaire qui se passait la semaine dernière. Mais quand on a imprimé le blog et on l'a lu, on s'est dit, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, ça se tient pas comme ça. Donc, on a regroupé toutes les scènes qui allaient ensemble. Puis, donc, l'ordre des scènes est changé dans le premier tome. C'est beaucoup plus agréable, je pense, pour le lire sur papier. Mais à part ça, je pense qu'on a à peine coupé peut-être deux pages, puis il n'y a à peu près rien qui a été redessiné ou retouché. On a corrigé des fautes d'orthographe, bien sûr. Mais c'est pas mal l'intégrale du blog.
Alors, on invite les gens à le découvrir sur papier ou sur le blog, mais en fait, ou les deux, en fait, pourquoi pas. Et en même temps, en terminant, Iris, ça va se passer quand même assez vite, parce que le tome 2, le tome 3 s'en viennent, je pense, en dedans d'un an. Là.
Oui, le tome 2, je pense qu'il paraît en janvier, un peu avant Angoulême. Le tome 3, je sais plus trop quand, mais dans peut-être 3-4 mois après, 5 mois, ça devrait être tout paru d'ici 2012.
Alors, on pourra conclure notre lecture de ce feuilleton-là à ces moments-là.
Si je peux juste mentionner que pour les gens qui sont à Montréal ou qui seraient à Montréal, les gens de Québec qui seraient à Montréal la semaine prochaine, en fait, l'autre semaine d'après, le lundi 17 octobre, c'est le lancement de Le Stitchet au Mur, au Cheval Blanc, au 809 Ontario Est, à Montréal. C'est un bar. Puis c'est un 6 à 8, ouais, 6 à 9. En tout cas, ça va finir tard de toute façon. Puis on va être là pour dédicacer, puis on va avoir plein de prix, de surprises, prix de présence, etc.
Alors, ben voilà, l'invitation est lancée, en espérant vous voir à Québec également, en cours de route. Qui sait?
Ben, on va essayer, oui, on a eu quelques invitations. Pour le moment, on est un peu dans le jus, mais c'est sûr que si on passe par Québec, on essaiera de faire quelque chose par rapport à la situation.
Excellent. Ben, Iris, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir. Alors voilà, le Stitchat tome 1, c'est disponible chez Delcourt Collection Shampoing, une toute récente donc parution qui vient d'arriver en librairie. Et un autre extrait de DJ Shadow ici à l'émission La vie en BD, c'est Sad and Lonely qu'on vient d'entendre. Petit commentaire au passage, une bande dessinée qui s'appelle Alter Ego, troisième tome qui vient de paraître, ça s'appelle Darius. Une série que j'ai découvert avec ce troisième tome-là, mais autour de laquelle j'ai bien envie de creuser. C'est une histoire, une saga en fait, qui s'annonce sur 6 tomes et de plus en plus au fil des tomes, en fait, je trouve que le suspense s'orchestre très bien. En fait, on sent un beau souci scénaristique de ce projet qui est principalement mené par Jean-Paul Renders avec plusieurs collaborateurs. Donc, essentiellement, l'histoire de destins qui s'entrecroisent et qui sont mystérieusement liés. Enfin, on le découvre justement avec ce troisième tome-là. Quel est le lien entre ces différents destins, entre ces différents protagonistes-là? Dans ce cas-ci, en fait, on suit un personnage qui avait été brièvement rencontré dans le premier volume. Donc, encore là, il y a des réponses à l'intérieur de cette série. Et on développe donc dans Darius une intrigue qui est prenante autour de ce personnage-là. Là, on réussit à le rendre attachant d'ailleurs, donc je parlais d'un bon scénario là, autant dans le micro que dans le macro, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de questions qui sont soulevées à travers donc cet opus-là, des connexions étranges entre des jumeaux notamment, un système de protection, en fait, de certaines personnes autour de ce mystérieux lien-là. Et c'est le cas de Darius, qui est protecteur, qui est ange gardien, entre guillemets, avec des questions morales aussi assez intéressantes, en fait, sachant, par exemple, l'enjeu autour de la vie de quelqu'un et de la sauvegarde de la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut prendre la décision, considérant que cette personne-là est une personne extrêmement désagréable, de la tuer, sachant qu'une personne extrêmement agréable pourra également subir des conséquences. Donc, ce type un peu de questionnement-là qui sont amenés. Alors, je vous incite, en fait, si vous avez l'occasion, que ce soit en emprunt à Gabriel Leroy, que ce soit en librairie, jetez un petit coup d'œil. C'est pas nécessairement la meilleure série au monde, là. C'est pas du tout ce que je dis, mais par contre, c'est un scénario qui est solide, qui est stimulant. Par contre, ce que je recommanderais, ce serait peut-être de recommencer au premier. Moi, j'ai commencé au troisième, mais au début, j'avais plus de questions que ce que j'aurais été censé en avoir. Alors, peut-être repartir du premier si vous décidez de vous lancer dans cette série. Donc, Alter Ego, dirigé par Jean-Paul Renders, c'est disponible chez Dupuis.
Vous pourriez vivre vos rêves les plus fous parce que ce vendredi, le gros lot du Loto Max est évalué à 50 millions plus les Max Millions évalués à 2 lots additionnels de 1 million de dollars.
La 21e édition des rendez-vous Estrade du 6 au 10 octobre dans le quartier Petit Champlain. 5 jours de musique, de chansons, d'ateliers, de danse, d'animation, sans oublier la joute chantée et la randonnée. Plus de 40 artistes de la Belgique, de la Bretagne et du Québec. À Lelange, jusqu'aux petites heures, Gentil Corum, Les Quêteux, Gabriel Boutillier et bien d'autres. Les rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes, des cultures d'ici et d'ailleurs. Estrade.qc.ca. Le 20 octobre, dès 20h, passez une soirée en compagnie de Larry Carlton Trio à l'Impérial de Québec et découvrez l'élégance mise en musique. Larry Carlton, c'est 4 Grammy Awards et 19 nominations, plus de 20 albums solo et 3000 participations comme session man auprès de Johnny Mitchell, Billy Joel et Quincy Jones. Larry Carlton est l'un des plus grands guitaristes de l'histoire du jazz et du blues. Pour son trio, il est accompagné de son fils Travis à la basse et de Jane Coy à la batterie. Spectacle en admission assise avec siège réservé au coût de $59.50. Réservez vos places au 418-523-3131.
Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au restaurant Les Colocs, 400 3e avenue d'Ivoilou, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, à la Fournée Bio, 1296 3e avenue d'Ivoilou et chez Amassane de Masseur. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payé.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 418-529-3829.
Vous êtes à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. À venir, ben notamment, on va jaser fanzine avec Olivier Bérère-Vidal. Un petit regard sur ce qui se passe, ce qui se crée ici dans la grande région de Québec. Mais pour le moment, on se lance plutôt dans une autre parution récente. Cette fois-ci, c'est chez Glénat Québec. Tome 4 d'une série qui s'appelle Mademoiselle. Le tome 4 qui s'appelle L'arme fétale. Donc, on voit qu'on s'intéresse à la thématique de la grossesse avec un personnage qui a ses excès également. Alors, ça donne un cocktail assez explosif. Et pour nous en parler, l'auteur est avec nous, Eva Rollin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, tome 4, donc, je le disais, qui s'intéresse à la grossesse, le tome 2 et le tome 1 et le tome 3 qui s'intéressaient au blues du célibat, au désir d'être en couple, à la vie d'adolescent qu'on traîne parfois avec nous. J'ai l'impression que on suit un peu aussi vos parcours, vos émotions et, disons, les événements qui ponctuent aussi votre vie à travers l'avatar de Mademoiselle.
Oui, ben Mademoiselle, sur ce personnage-là, sur ce projet-là, c'est vrai que sa vie est quand même assez plaquée sur la mienne, entre guillemets, là, avec du temps de décalage aussi, là. Mais c'est, voilà, c'est bon. Pour ce personnage-là, qui est un personnage quand même assez improvisé au niveau du dessin, des textes, je travaille vraiment ça comme de l'improvisation théâtrale. Je me sers beaucoup de ce qu'il y a autour de moi et de ce que je vois au quotidien et de ce que je vis aussi au quotidien. Après, c'est exagéré, c'est tourné en autodérision, c'est caricaturé, donc voilà, mais oui, je peux pas nier qu'elle suit un peu mon évolution. Quoique, quand j'ai été Mademoiselle Manuelle à la parfaite célibataire, elle était mariée quand même à ce moment-là. Donc, bon.
Il y a une zone de création aussi, on s'entend. Mais j'imagine qu'il n'y a qu'un plaisir, justement, de mettre en ce personnage-là. En fait, je vous laisserai peut-être nous la présenter, justement, parce que je parlais d'excessif tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un mot qui pourrait être adéquat, là.
Excusez-moi, j'ai pas très bien entendu, je suis désolée.
Je disais, pour Mademoiselle, en fait, le terme excessif autour de ce personnage-là serait
oui, adéquat, oui. Parfait. Paradoxale et excessive, oui. Mais c'est une jeune femme. On a suivi l'évolution sur les 4 tomes, elle est partie de jeune, et maintenant elle l'est beaucoup moins. Mais dans sa tête, elle l'est encore. Puis comme elle est intemporelle, on connaît pas son. ni son prénom, ni vraiment ce qu'elle fait, ni rien. C'est plus sur le caractère de la trentenaire que je travaille. Et puis, bon, après, je dis pas que c'est pas une généralité, ça, c'est pas toutes les trentenaires, mais c'est un petit constat rigolo de certaines filles qui sont des fois un peu paradoxales, excessives, perdues, mais en même temps très attachantes et puis voilà quoi.
Oui. Et peut avoir un certain plaisir à dire, ben justement, voilà, qu'est-ce qui arriverait si elle tombait enceinte? Et de partir justement avec, parce que l'album, c'est un peu des variations sur ce thème-là. Qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qui arrive avec ce personnage-là enceinte? Là?
Je me suis beaucoup amusée à le faire dans le sens où, vu son caractère, c'était très drôle de travailler la grossesse avec elle, parce que c'est sûr que quand on est enceinte, autour de nous, les gens sont waouh, super, c'est encore une connotation très. Très glamour malgré tout, on ne voit que le côté maman, tu peux être une maman, c'est beau, tu donnes la vie, mais il y a tous les petits aléas aussi, puis j'ai pu vraiment m'amuser avec ce personnage-là à montrer ces petites choses qui ne sont pas graves en soi, qui sont des choses marrantes, mais à vraiment accentuer ce côté-là, et puis à montrer une autre facette de la grossesse qui est peut-être un peu moins glamour. Quoi.
Et dans le dessin, dans la structure, en fait, il n'y a pas de case dans les mademoiselles, vous laissez beaucoup de liberté dans la page pour l'occuper comme bon vous semble. En fait, c'est l'impression que j'en ai.
Bah, comme je l'expliquais déjà dans une autre entrevue, puis comme je le dis souvent, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, Mademoiselle, c'est un personnage que je travaille beaucoup en improvisation, je travaille sur l'expression du personnage. C'est vraiment ce qui m'intéresse sur ce projet-là. Et puis, disons que les cases, le décor, personnellement, je trouve que ça ne sert pas le propos. Si j'en avais besoin pour l'histoire, pour que ça servait l'histoire, j'en mettrais, mais je trouve que là, on n'a pas plus d'intérêt que ça à en mettre, puisqu'on... un personnage très égocentrique, donc effectivement tout est basé sur elle, donc c'est sur elle que je travaille énormément. Donc je pense que de laisser une fluidité comme ça au niveau du décor et des cases permet vraiment de se concentrer sur le personnage et sur ses états d'âme et sur ses expressions.
Et de jouer avec le trait, de jouer avec la forme du personnage aussi justement.
Puis comme quand je commence à travailler, je prends juste un morceau de feuille, puis je fais le personnage, et puis excusez-moi, j'ai le petit monstre qui râle. C'est l'heure du souper. Donc ça, je travaille vraiment, je le mets en scène comme un personnage de théâtre. C'est comme ça que je le vois dans ma tête. Et puis quand il m'arrive quelque chose dans la vie, chaque situation un peu comique, on va dire, qui peut m'arriver, ou moins comique, mais qui pourrait tourner en dérision, tout de suite, je l'intègre et j'imagine Mademoiselle dans cette situation-là. Donc c'est devenu un peu un alter ego cérébral, entre guillemets. C'est-à-dire que elle vit à moitié dans mon cerveau, puis je l'oublie jamais, elle est constamment là en arrière-fond. Puis dès qu'il y a une situation qui se présente et qui porte à faire une histoire avec Mademoiselle, ben, ça reste en arrière-plan. Quoi.
Oui, donc dans le fond, en réalisant les albums, ça permet une certaine sélection aussi d'aller cibler les gags qui marchent le mieux, de mettre de côté ceux qu'on aime un peu moins, dans le fond?
Mais ça, c'est un peu difficile, je vous avoue, parce que sur une tome 4, par exemple, sur la grossesse, il y a tellement de choses à dire. Uh-huh. On est obligé de couper à un moment donné. Donc, moi, ça aurait été que de moi, là, puis j'aurais eu plus de temps, puis plus... Enfin, je sais pas, comme ça aurait été différent, j'aurais pu en faire un 500 pages, mais bon, c'est sûr que après, ça devient lassant, là. Mais tout est matière à transformation puis à dérision, donc j'aurais pu m'amuser beaucoup plus, mais bon, il a été fait dans des circonstances un petit peu particulières, puisque j'ai dû l'arrêter en cours de route, j'ai commencé enceinte, puis j'ai accouché prématurément, donc j'ai pas pu reprendre le livre après 6-7 mois après avoir accouché. Donc c'est pour ça aussi, je peux pas dire qu'il est plus réfléchi, mais il y a eu vraiment un arrêt qui a fait que j'ai pu prendre du recul aussi par rapport à ça, et puis continuer l'histoire de Mademoiselle enceinte d'une manière un peu différente. Plutôt que de le vivre vraiment au jour au jour, là, moi, elle, il y a eu une pause, puis je suis revenue sur cette grossesse-là après. Quand moi, j'ai eu digéré mon accouchement, puis le fait que mon petit était né quand même 3 mois en avance, et que bon, voilà, quand tout ça a été passé, et puis que ça allait bien, et je me suis remise dedans, puis j'ai essayé de me remémorer les meilleurs moments de ma grossesse. Parce que c'est quand même des bons moments, même si c'est Mademoiselle puis qu'elle râle tout le temps, puis qu'elle est comme ça, c'est quand même des bons moments. Là. Donc j'ai essayé de me remémorer ces moments-là, puis ça a été quand même une manière pour moi aussi de... C'était un second accouchement, entre guillemets, puis peut-être plus dans les vrais termes, là, dans les vrais mois où il aurait fallu.
Oui, parce qu'effectivement, enfin, il en ressent un regard quand même très positif, justement, face à l'expérience d'être enceinte. Malgré tous ces aléas-là, on sent pas qu'elle est prisonnière de ça, qu'elle vit mal sa grossesse, au-delà, justement, comme vous disiez, qu'il fait qu'elle râle constamment. Là.
Oui, ben ça, elle râle tout le temps, de toute manière.
Exactement.
Mais oui, je pense qu'il y a un vrai plaisir, mais en même temps, moi, il y a ce côté, justement, non glamour, là, quand on dessine une fille qui fait pipi dessus parce qu'elle est éternue, c'est sûr que c'est beaucoup moins glamour. Mais ça fait partie de la vie, puis je trouvais ça drôle de le mettre en scène, et puis, bon, voilà, quoi. Alors, c'est sûr que, bon, j'ai déjà lu des critiques où on me dit, c'est déjà été fait, les gens ont fait ça. Oui, je suis pas la première femme à être tombée enceinte, là, au monde, là, donc je suppose que oui, il y a plusieurs livres qui ont été faits là-dessus. Mais bon, ça fait partie du cheminement de Mademoiselle, puis voilà, puis même malgré tout, ce personnage-là qui est en train de devenir adulte, elle est en train de devenir adulte en ayant un enfant. Elle reste elle-même et elle restera elle-même. Je veux dire, même enceinte, elle reste Mademoiselle avec son côté complètement déluré, paradoxal, complexé et fou, quoi. Donc, c'est là-dessus que je voulais jouer puis que je voulais garder ce personnage-là comme ça.
Et vous l'avez mentionné, justement, c'est quand même un thème, bon, la grossesse qui est pas nouveau, ça a été exactement... Est-ce que des fois, on avait l'impression de... On se dit, non, je peux pas me lancer là-dedans, il y en a trop qui en ont déjà parlé, ou des petites craintes à dire, mais comment moi je peux raconter cette expérience-là à travers l'humour, à travers ce personnage-là, de manière quand même originale, pour qu'on ait pas l'impression qu'il y ait de la redite par rapport au...
Moi, je l'ai fait, j'ai pas vu qu'il y avait des choses qui avaient été faites là-dessus, donc déjà, je n'ai pas été gênée par ça, là, parce que chaque fois, j'ai un train de retard, comme je dis, j'ai accouché, donc on a arrêté, il a été prévu pour 2009, puis il est sorti en 2011, enfin, je l'ai commencé en 2009, il est sorti en 2011, donc entre-temps, c'est sûr qu'il y a eu pas mal de bouquins là-dessus, mais en même temps, je veux dire, dans l'art, tout a déjà été fait, puis si on devait traiter que des sujets qui n'ont jamais été traités, il n'y aurait plus rien, il n'y aurait plus de culture. Donc après, je pense qu'on a tous notre mode d'expression, un mode d'expression différent, une manière de traiter le sujet différemment, puis on vit tous d'une manière différente. Donc moi, ça ne me dérange pas, enfin, plus que ça, que les sujets soient les mêmes et puis que ce soit...
Oui, ben, y a des histoires qu'on aime se faire raconter plusieurs fois aussi, avec des perspectives différentes, avec des tons...
Oui, c'est un livre sans prétention. Je veux dire, j'appelle même pas ça une vraie BD, parce que vous dites, il n'y a pas de case, il n'y a pas de décor, bon, il n'y a pas de couleur, donc c'est plus ça. Un petit clin d'œil au quotidien, puis mis en autodérision. Donc, tu n'as pas la prétention de vouloir exploser un nouveau marché, ou alors de vouloir, raconter quelque chose de neuf. Voilà, bon, c'est quelque chose qu'on lit comme ça, quand on a 5 minutes de livre, puis c'est comme ça, c'est pas...
Et le tome 5, en fait, avec bébé?
Alors, c'est ça, normalement, ce que j'ai expliqué dans une entrevue, je voulais pas faire de la Mademoiselle maman, parce que pour moi, c'était aussi quelque part ancré dans une réalité beaucoup plus, concrète, là. Mais au bout du compte, en étant maman moi-même, là, je me rends compte qu'il y a tellement de choses à raconter qui peuvent être très, très drôles, là. Tellement de paradoxes sur l'éducation de l'enfant, comment on vit ça, c'est... Alors, je pense que je vais le faire pareil, mais à la Mademoiselle, évidemment. Donc, de toute façon, elle peut pas être comme tout le monde. Donc, c'est une maman monoparentale qui en bave un peu, on va dire. Donc, je pense qu'il y a matière à faire quand même quelque chose de sympathique. Mais comme je vous dis, une fois de plus, sans aucune prétention et sans vouloir révolutionner le monde de la bande dessinée avec, là, puis le monde de la maternité non plus.
Alors, ben voilà, on invite les gens à jeter un coup d'œil. Donc, Mademoiselle, tome 4, L'arme fétale, c'est chez Glénat Québec. Eva Rollin, merci beaucoup.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Bonne fin de journée.
Sorry, au revoir.
Alors voilà, donc, tome 4, autour donc de cet univers de la grossesse. On prend une petite pause musicale. Au retour, Olivier Bérard-Vidal. DJ Shadow, Run for Your Life, ici à la vie en BD. Et ben, pour terminer l'émission de cette semaine, on va porter un regard sur l'univers des fanzines dans la région de Québec, avec quelques exemples également pour étayer tout ça. Et pour porter ce regard avec nous, ben, notre collaborateur Olivier Bérard-Vidal, que vous connaissez comme illustrateur, il est organisateur également du Salon Nouveau Genre. On est bien content de l'avoir avec nous dans l'équipe de l'émission. Olivier, bonjour.
Bonjour Raymond.
Ça va bien?
Très, très bien.
Et Olivier, en fait, j'ai vu déjà que tu as une petite pile et j'ai presque envie de dire, en fait, parce qu'on va parler de trois ou quatre fanzines de la région, mais on aurait pu en parler de beaucoup plus que trois ou quatre. Là.
Oui, oui, certainement. J'en ai choisi trois, Copinet, Copineau, Le Bob et Catapulpe. C'est des représentants, je trouve, de différents genres et différents styles de fanzines qui sont faits à Québec. Je les ai aussi choisis parce que c'est des fanzines qui sont des séries qui existent depuis quelques années et qui ont leurs assises ici et qui sont souvent... souvent, les fanzines sont... Un ou deux existent. Après ça, les gens, bon, en se lassent. J'avais envie de présenter des choses qui sont comme... faites par des gens qui le font dans la durée, sur plusieurs années, ce qui est une chose qui, moi, m'impressionne beaucoup.
Et on commence tout de suite, tiens, avec les exemples. Premier que tu as mentionné, Olivier, Copinet Copineau.
Copinet Copineau, c'est un collectif qui existe depuis 2008, qui est à l'origine de un groupe de trois étudiants du tech en graphisme au Cégep de Sainte-Foy. Mm-hmm. J'ai nommé leur nom, Guillaume Proto-Beaulieu, Julien Dallaire-Charret et Thomas Michaud-Bayens. Je pense que je connais pas exactement l'histoire précise, mais ils ont fait le peu que je peux vous en dire, c'est là ils en sont au sixième numéro de la série Copinet Copineau. Le sixième va sortir en décembre, c'est le cinquième, le dernier, c'est L'amour triomphe toujours, mais des fois ça fait chier. ils sont trois à l'origine de ça, et ils ont plusieurs collaborateurs qui sont ajoutés ou enlevés d'un numéro à l'autre. Dans les précédents numéros, ils abordent des thèmes comme, selon leurs propres mots, l'étrange, l'humour, le surréalisme, l'érotisme, la spiritualité. C'est des histoires des fois un peu absurdes. Ils ont, moi, j'aime bien leur façon de procéder.
Oui, puis l'idée, en fait, d'intégrer un thème, ça permet d'avoir quand même un esprit de ralliement autour des BD.
Oui, c'est ça. Ils travaillent aussi avec différentes techniques de création, comme travailler de façon très spontanée, l'improvisation... Je pense que ça donnait un thème, travailler là-dessus. Mm-hmm. Fait que ça donne des choses très, très différentes. Des fois, limite narrative. Moi, ce que j'aime beaucoup.
Mais en même temps, c'est pour ça aussi qu'on va dans le fanzine. C'est pour voir des trucs qui sont un peu hors normes aussi.
Ben oui, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est un peu... En venant à pied, je réfléchissais un peu. Bon, OK, s'il me pose la question, bon, dis-nous, c'est quoi des fanzines? Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre? Ben, c'est souvent ça. C'est souvent des choses qui sont comme faites par quelques personnes parce qu'ils ont envie de le faire puis qui sont pas soumises à des impératifs comme le sont d'autres bandes dessinées, des livres, la littérature, disons, pas nécessairement plus mainstream, mais plus institutionnalisé, disons.
D'ailleurs, un cadre, en fait, pour l'édition, il y a des principes qu'il faut respecter.
Choses qui se font, des choses qui se font pas. On dirait que dans le fanzine, ben, on fait un peu ce qu'on veut. Moi, c'est cette liberté-là, puis un peu comme ce côté moins poli, plus brut, plus naïf, tu sais... Moi, c'est ça qui me plaît en particulier dans le fanzine en général.
Et tu parlais d'absurde avec Copinet, Copineau. Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu dans le même registre à certains égards pour Le Bob, qui est un autre fanzine qui dure.
Le Bob, c'est une histoire très impressionnante. Le Bob existe depuis 2006. Et la personne à l'origine du Bob, c'est Joël Sim. Le dernier numéro qui est sorti, c'est le 21e. Bravo Joël, moi je suis vraiment super impressionné.
C'est une question d'année dans son cas.
Oui. Ça c'est magnifique. Ils sont quatre BDistes comme le noyau du projet. Puis il y a une dizaine de collaborateurs qui interviennent à un numéro ou à un autre. Des exemples de séries qui reviennent d'un numéro à l'autre. Star Boris et ZXK, Où est le jambon sous le soleil de Sun City. C'est un fanzine de bande dessinée d'humour. Moi, j'aime particulièrement ceux faits par Joël qui s'appelle Le Bob. C'est le personnage un peu qui donne son nom au fanzine, qui est une sorte de personnage très, très simple.
C'est un rond, dans le fond.
C'est deux ronds et deux bras et deux jambes. C'est une sorte de personnage qui est conscient de son état de personnage de bande dessinée et qui en parle et qui... qui joue un peu avec ça pour mettre certaines choses en relief.
Et pour ceux qui suivent un peu la blogosphère, je pense qu'à un moment donné, Joël Sim avait fait voyager son personnage dans d'autres blogs, justement, aussi.
Ça, j'ai beaucoup rendu ça, mais en faisant des recherches sur le Bob pour avoir un peu une histoire, le nom, tout ça, j'ai été aussi doublement impressionné de voir comme le travail qu'il fait pour archiver le travail qui est fait de numéro en numéro, expliquer... Allez sur le site si vous êtes curieux. Il y a pour chaque série, il y a les statistiques du nombre de pages qui sont parues de cette série-là dans l'histoire du Bob. Il y a depuis quel numéro.
On parlait de durée tout à l'heure, Olivier. Reste que c'est peut-être justement parce qu'il y a une organisation, parce qu'il y a une logique derrière ça, qu'on réussit aussi à faire durer l'entreprise.
Oui, je pense que c'est aussi une des choses à la base de ce que sont les fanzines, c'est la passion. Il faut avoir envie de faire ça pour faire durer un projet comme ça, puis trouver des commanditaires pour le faire. C'est presque un travail à temps plein, finalement.
Oui, pratiquement. Et on saute peut-être du Bob. Je fais la parenthèse, on va mettre les liens sur le blog de l'émission, laviembd.wordpress.com, pour vous essayer facilement retrouver ces fanzines-là. Il y a Catapulte aussi.
Oui. Je vais quand même te corriger, c'est Catapulte.
Catapulte, oui, effectivement.
Le titre, c'est catapulte.com, mais on mettra les liens sur le blog. Catapulte est un fanzine de nouvelles qui est géré et dirigé par Denis Bégin. Il existe depuis 2007. C'est un fanzine qui publie des nouvelles de jeunes auteurs, des auteurs émergents ou des étudiants en création littéraire, par exemple. Il est épaulé par une petite équipe. Il s'associe, travaille avec...
Désolé, c'est...
J'ai bien aimé ça. Il travaille avec Sylvie Pouliot à l'Université Laval. Par exemple, pour le graphisme, dépendant des numéros et des thèmes, il y a eu des thèmes comme terrasse, épicerie, camping, électronique, bonbons.
On est un peu moins dans l'ésotérique comparativement à Copinet Copineau.
Oui, c'est ça. le thème est annoncé d'avance. Les gens peuvent envoyer des manuscrits. D'ailleurs, on peut faire l'invitation. Si des gens sont des écrivains en herbe ou des écrivains émergents, allez voir catapulte.com puis regardez comment ça marche. Les thèmes sont annoncés d'avance et les gens soumettent des manuscrits, il y a un comité de lecture, il y a une direction, tout ça. Je pense que d'un numéro à l'autre, il y a souvent comme 8 ou 9 nouvelles entre une ou deux pages et plusieurs pages. Le dernier s'appelait École, c'était le thème. Puis c'est un peu, il y a la création littéraire, les nouvelles, il y a un peu aussi des fois des illustrateurs qui travaillent sur certains textes pour agrémenter le truc.
Donc c'est un beau métissage dans le fond.
Oui, c'est un super beau projet qui en est, là j'ai oublié le nombre de, je pense que c'est comme au moins 9 ou 10 numéros déjà qui ont existé.
Ça n'a pas l'air de s'essouffler non plus de ce que j'ai vu.
Moi, je suis toujours fasciné de voir, on vous annonce d'avance les deux prochains thèmes des prochains numéros vont être ça.
On sait qu'on veut le faire encore au moins un an.
On sait qu'on va continuer. Ouais, moi, je trouve ça fabuleux. Tous ces fanzines-là sont disponibles pour ceux qui sont intéressés à les voir en vrai, à les feuilleter. Des bons endroits où aller voir, ce serait Phylactère sur la rue Saint-Joseph. Il y en a des fois chez Morgan Bridge, il y en a chez Zone sur Charest. On mettra peut-être des liens pour les points de vente, mais la librairie Pantoute aussi sur Saint-Joseph. Il y a plusieurs endroits comme ça. Il y en a de plus en plus à Québec où on peut aller voir, feuilleter, tout ça.
Et peut-être petite mention en terminant aussi, il y a La Brique qui, lui, est plus lié à un programme d'études.
Oui, c'est ça. La Brique, je dis c'était parce qu'il est comme un peu en pause en ce moment, faute de gens qui sont intéressés à s'en occuper. C'était le journal des étudiants des arts graphiques de l'Université Laval. C'est Madeleine Aubin qui a géré ça pendant la dernière année ou les deux dernières années. Là, je pense qu'il n'y a personne qui s'en occupe en ce moment, mais c'est une chose qui reviendra peut-être comme... Fait que ça, c'était plutôt un truc orienté vraiment vers le design graphique.
C'est une preuve que le médium peut être décliné, en fait. Je veux dire, le fanzine, c'est des possibilités pratiquement infinies.
Oui, c'est ça.
Ça devient une vitrine, soit pour un travail d'études, soit pour se faire de l'expérience ou pour le plaisir.
Exactement.
Alors, en fait, je rappelle les trois suggestions. Copinet, Copineau, Le Bob et Catapulpe, qu'on peut trouver assez facilement. On mettra donc, je le répète, l'information sur le blog. Et ça vaut la peine, en fait, d'aller faire l'effort de mettre la main sur un de ces trois-là si on ne les connaît pas déjà.
Je pense que oui.
Alors, ben voilà. L'invitation est lancée. Olivier Bérard-Vidal, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et on se dit à dans quelques semaines.
À très bientôt.
Ah ben voilà, nous, c'est ainsi qu'on se dirige vers la conclusion de La vie en BD. Petite mention au passage, très rapidement, il y a des petits problèmes du côté du Festival d'Angoulême, dans la mesure où, pour les éditions 2012 et 2013, l'éditeur Dupuis a annoncé qu'il serait absent du festival. Il dit, regardez, c'est pas dans notre stratégie pour l'instant. Alors, ce sera intéressant de voir dans l'actualité BD de quelle manière ça va évoluer tout ça. Dossier à suivre. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. On aura JF avec nous, Philippe Girard, Richard Valeran, Michael et plus encore. Alors, soyez là. C'est un plaisir d'être avec vous cette semaine. C'était Raymond Poirier au micro. Et je vous laisse entre les bonnes mains de l'équipe de 100% Dynamite.